la vie est sortie de l'eau à un moment donné, et puis après il y a certains groupes qui y sont retournés. Parmi ces groupes, il y a ceux qu'on connaît aujourd'hui, qui sont les baleines, les dauphins, les orques, enfin tous ces cétacés aquatiques. Et leurs ancêtres étaient des sortes d'antilopes qui vivaient au bord de rivières et qui sont progressivement devenus des animaux amphibies et puis totalement aquatiques, d'abord d'eau douce, puis ensuite d'eau salée. Je suis Bruno David, je suis président du Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors, on en connaît à peu près 400 000, on connaît à peu près 400 000 espèces dans l'océan, mais l'expédition Tara-Océan a permis de découvrir de très nombreuses autres espèces, justement avec cette technique de la génétique du seau d'eau. C'est moi qui l'appelle comme ça, hein. En fait, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Donc, on en a trouvé beaucoup plus, et ils en ont trouvé, Tara-Océan a identifié à peu près 1 500 000 supplémentaires, qui sont des espèces de micro-organismes. Et moi, ce que j'appelle la génétique des seaux d'eau, en fait, on fait un prélèvement d'eau et après, on fait ce qu'on appelle du métaséquençage. C'est-à-dire qu'on est capable d'analyser d'un coup l'ensemble de l'ADN qui est contenu dans un échantillon d'eau, en l'occurrence. Et ça nous permet de savoir combien il y a d'espèces présentes, de micro-organismes invisibles à l'œil nu, qui sont présents dans le seau d'eau qu'on a prélevé. Le souci, c'est de résister à la pression. C'est pour ça qu'on les appelle piézophiles, parce qu'ils sont capables de résister à de très fortes pressions. Donc ils ont des adaptations qui leur permettent ce genre de résistance, que nous, évidemment, on n'aurait pas. Un des systèmes les plus simples, c'est simplement que la pression interne de l'organisme soit équilibrée par équilibre la pression externe. C'est-à-dire, en fait, il y a des échanges entre l'extérieur et l'intérieur qui font qu'il y a la même pression à l'intérieur et à l'extérieur. Donc l'organisme n'est pas écrasé par la pression qui l'environne. C'est d'être dans un environnement où pratiquement jamais personne n'est allé, puisqu'il y a presque moins de personnes qui sont descendues à ces profondeurs que de gens qui sont allés sur la Lune, en tout cas qui sont allés dans l'espace. C'est très très peu de personnes finalement dans le monde, parce qu'on descend à plusieurs milliers de mètres de profondeur, dans un environnement complètement inhabituel, il y a une certaine solitude autour évidemment, puisqu'il n'y a personne, il n'y a pas d'être humain, et assez peu finalement d'êtres vivants également à ces profondeurs. Mais c'est totalement fascinant, quoi. On a l'impression d'être sur une autre planète. C'est très silencieux, l'ambiance est très silencieuse, il y a le bruit qu'on a à l'intérieur du Nautile, il n'y a pas de bruit à l'extérieur, donc il n'y a pas de bruit, ce sont des moteurs électriques qu'on entend très peu, on entend un petit ronron quand le Nautile se met en marche, mais sinon presque aucun bruit. Alors, les récifs coralliens sont les écosystèmes marins qui sont les plus riches en espèces. Donc c'est pour ça qu'on s'y intéresse beaucoup, c'est pour ça aussi qu'il faut les protéger, parce que ce sont les forêts tropicales de l'océan en quelque sorte. Donc il y a une ressource en biodiversité qui est absolument gigantesque dans les récifs coralliens, et ils sont très fragilisés par le réchauffement climatique, parce qu'ils supportent assez mal des températures qui sont un petit peu trop chaudes, comme ça ne migre pas quand même très très rapidement, ils n'ont pas la capacité de se déplacer vers le nord dans l'hémisphère nord ou vers le sud dans l'hémisphère sud, pour mieux s'adapter à des eaux qui seraient plus en adéquation avec leur mode de vie. Donc ils sont réellement en danger en ce moment. On trouve beaucoup de poissons. Comme c'est très facile de se déplacer dans l'océan, toutes les espèces qui sont en capacité de se déplacer assez facilement, qui sont un peu ce qu'on appelle des espèces pélagiques, hein, qui vivent dans la colonne d'eau, se déplacent. Et on va trouver comme ça on trouve des barracudas en Provence, alors que normalement c'est dans l'océan Indien. Et maintenant ils sont bien installés, hein, ils se reproduisent là, il y a des bancs entiers de barracudas qui circulent le long des côtes de Provence. On a des poissons tropicaux dans le golfe de Gascogne, donc on commence de voir vraiment des changements de faune importants avec des migrations vers le nord chez nous et réciproquement vers le sud dans l'hémisphère sud. Hein. En biodiversité marine, c'est avant tout la surexploitation des ressources marines avec la surpêche notamment, et puis l'exploitation des ressources minérales qui commence, enfin il y a des choses comme ça, il y a d'autres, la pollution, tout ce qui arrive des continents, les problèmes des plastiques, il y a les eaux côtières qui sont sous juridiction nationale, Chaque pays a ses eaux, la zone économique exclusive qui s'étend sur plus de 200 km au large des côtes. Et puis au-delà, c'est la haute mer. La haute mer, elle appartient à tout le monde. Mais il y a quand même des règles, mais qu'on essaye d'imposer, mais qui ne sont pas obligatoires en quelque sorte. Donc vous voyez, là, en termes juridiques, le droit de la mer est quelque chose de très compliqué et de très compliqué également à faire appliquer. Parce qu'il n'y a pas véritablement de police de la mer. Effectivement, d'un état à l'autre, il ne se passe pas la même chose. On a vu récemment les pêcheurs anglais et français qui se tapaient dessus dans la Manche, alors que pourtant, on sait à peu près où est la frontière dans la Manche, si on veut mettre une frontière. On voit toute la difficulté d'appliquer des règles internationales dans le milieu marin. C'est très difficile.